et à travers ses serviteurs, ayez foi. Amen. Alors Laurent, tu viens me voir. Voilà. Alors simplement, je voulais le féliciter. Je voulais simplement le féliciter. Je crois qu'il a pu. Il a pu déverrouiller l'éducation nationale pour avoir cette autorisation de rentrer dans les lycées pour parler aux jeunes de ces addictions, de toutes ces choses qui nous lient, qui nous enchaînent, la drogue, l'alcool, etc. Et l'éducation nationale lui a ouvert les portes. Je ne sais pas comment il a fait. Le Saint-Esprit est avec lui. Le Saint-Esprit l'a aidé pour ouvrir les portes. Voilà. Et je crois aussi qu'il fait une tournée pour nous enseigner toutes ces choses-là. Il était sur Catéo récemment. Mais vous savez, ce frère, il a connu une jeunesse un petit peu mouvementée, avec quelques difficultés. Il a même connu la prison. Mais c'est, vous savez, la prison, c'est un lieu d'appel. C'est un lieu où on est livré à soi-même, où on crie Seigneur. Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tire-moi de ce lieu. Voilà. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a fait, vous voyez, ce qu'il est devenu maintenant. Mais, Dieu lui a donné quelque chose d'extraordinaire. Il a, disons, presque touché à la mort. Il a été très, très malade. Proche de la mort, un doigt de la mort. Et Dieu est venu, Dieu l'a arraché à la mort. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous garde en vie, et Dieu a voulu le garder en vie, parce que Dieu avait un projet pour lui, et voilà ce projet qui se réalise ici, dans cette assemblée. Amen. Et c'est ce projet. Et Dieu va vraiment sortir vraiment de la mort. Il pourra même peut-être vous le dire deux mots plus profondément que moi, plus important que moi, mais Dieu l'a sorti de la mort. Dieu a fait de lui ressuscité. Amen. Amen. Et Dieu l'utilise maintenant. Écoutez-moi, le Saint-Esprit est lui, est sur lui, et Dieu l'utilise avec force, avec puissance, pour annoncer la parole. Et je crois que tout à l'heure, il va annoncer cette parole dans la puissance, dans la force du Saint-Esprit. Amen. Alors, Dieu l'a béni, et Dieu a voulu qu'il soit aujourd'hui avec nous, parce qu'il avait quelque chose à nous dire. Dieu, à travers lui, avait quelque chose à nous dire. Amen. Alors, Laurent, je laisse un petit peu deux petites phrases encore, parce que tu vas compléter ce qui a été dit. Alors, à toi.
Amen. Voilà, c'est un grand honneur de revenir parmi vous. Donc, ça fait quelques années que j'étais là. Et effectivement, je vais donner mon témoignage. Et depuis, c'est vrai que le Seigneur, nous envoie toujours plus loin, nous envoie toujours, selon sa grâce, annoncer sa parole à temps et à contre-temps. Et voilà ce que je fais depuis maintenant quelques années. Et comme le disait Ernest, il y a une grâce particulière, puisqu'aujourd'hui, je témoigne dans toutes les écoles, celles qui veulent bien m'inviter, en tous les cas, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour annoncer d'abord que Jésus est notre Sauveur, il n'y en a pas d'autre, hein, bien sûr, permettent aussi à ces jeunes que je rencontre, leur permettre de découvrir et leur expliquer comment on peut très très vite se retrouver vraiment prisonnier dans une forme d'addiction. Alors c'est vrai que quand on a eu quelques contacts avec Ernest et Evelyne, on m'a demandé vraiment plus d'accentuer sur le domaine de l'addiction. Hein, et aujourd'hui, entre guillemets, je suis devenu un peu un expert. Alors vous savez, il n'y a que l'humour de Dieu qui peut faire ça. Moi, j'ai été déscolarisé en quatrième à cause de la drogue. J'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. Et je vais même dans des grandes écoles. Voilà. J'étais un grand toxico, un gros trafiquant. J'habitais pas très loin d'ici, sur le boulevard Ney, pour ceux qui connaissent, hein, entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Donc ici, c'était ma cour de récréation. C'était ma cour de récréation. Hein. Et malheureusement, aussi, souvent, objet de beaucoup de difficultés, de grandes difficultés, hein, de grandes détresses, puisqu'il m'arrivait même de dormir dans des coins à côté, vers Marcadet ou Barbès, de zoner dans ces coins-là. J'ai été 15 ans esclave de l'héroïne. Vous savez, souvent j'entends des personnes qui disent, quand on est pris sous un piège de l'addiction, on ne peut pas s'en sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en suis un témoin vivant. 15 ans d'héroïne, aujourd'hui, c'est l'humour du Seigneur. J'étais trafiquant aujourd'hui, je fais de la prévention dans les écoles. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il commence à te toucher, il commence à te guérir, il te libère de tes addictions, et après, il te permet de pouvoir aider les autres. C'est juste extraordinaire, frères et sœurs. C'est juste extraordinaire. Dieu, dans sa parole, nous dit, dans les Galates, il nous dit, c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Il nous a affranchis de toute addiction. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes tous appelés à la liberté. Et souvent, nous nous enfermons, nous nous attachons, nous sommes esclaves de nos pratiques, nous sommes esclaves de nos produits qui malheureusement nous enferment, qui malheureusement nous rendent tout simplement malheureux. Et Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Dieu a mis la joie dans notre cœur. S'il nous a donné son Fils unique, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, c'est pour que nous ayons une vie en abondance, pas une vie d'enfermé, pas une vie esclave, pas une vie où nous sommes dans une cage. Et il faut vraiment demander la grâce de Dieu, le supplier. Et je vous le dis, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu, rien. Et même si nous connaissons, nous côtoyons des personnes qui sont depuis plusieurs années sous les emprises des produits, sous les emprises d'alcool, sous les emprises de la pornographie, du sexe ou des choses comme ça, quand je parle du sexe, d'une manière addictive, c'est-à-dire pas dans une relation d'amour avec son épouse ou son époux, mais vraiment quelque chose qui devient une compulsion, une impulsion où on ne peut pas contrôler, jusqu'à malheureusement se retrouver à faire des crimes, parce que c'est ça, quand nous sommes pris dans ce piège, nous ne sommes plus nous-mêmes, et c'est le Satan qui nous tient, c'est le Satan qui est là, qui prend notre vie. J'aimais bien mon ami Carlos, il nous a dit quelque chose il n'y a pas très longtemps, Satan, il connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dieu connais ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Amen, oui. C'est-à-dire que l'accusateur de nos frères, il t'a déjà mis d'une certaine manière le doigt et nous sommes rentrés quand nous sommes prisonniers dans ce péché. Nous sommes comme prisonniers et comme liés, esclaves. Vous savez, depuis quelques années, je me rends compte que cette forme d'addiction n'est pas juste. Moi, je croyais qu'on était juste addict à l'alcool ou à la drogue. Combien de jeunes sont enfermés dans des images perdues, où ils vont passer leur temps à se couper des autres, à se couper de la relation aux autres, et même de se couper à leur propre relation. Alors vous savez, le Seigneur m'a donné des grâces particulières. C'est vrai que j'ai plusieurs maintenant casquettes. Pour moi, c'est l'annonce de l'Évangile le plus important. Permettre que chacun puisse découvrir combien Jésus peut faire des merveilles dans sa vie. Ça, c'est le plus important. Il me donne aussi cette casquette de pouvoir, d'une certaine manière, non pas enseigner, mais pouvoir au moins exhorter sur ce que c'est l'addiction. Il a mis sur mon cœur vraiment ce qu'on appelle... C'est comme un hôpital de jour. Vous savez, je suis très sensé. Je sais. Vous savez, c'est très intéressant de savoir le terme déjà addiction. C'est vrai que ça nous vient des pays un peu anglo-saxons. On parle d'une dépendance. À l'époque des Romains, de l'Antiquité romaine. Quand on nous parlait d'une addiction, on parlait de personnes qui étaient condamnées à la vie, à la mort, c'est-à-dire ils étaient esclaves. Frères et sœurs, quand nous sommes pris dans une forme d'addiction, nous sommes esclaves. Il n'y a pas d'autre terme. Nous sommes esclaves. Alors c'est vrai, selon certaines personnes, des personnes disent que nous sommes malades. d'une addiction. Effectivement, on peut, selon certaines circonstances, hériter, malheureusement, dans les gènes, hein, si nous avons eu des personnes dans notre famille qui étaient vraiment dépendants, mais c'est très rare. Et c'est sans compter la grâce de Dieu. Maintenant, souvent, c'est ce qu'on appelle une consommation ou une habitude excessive. C'est-à-dire où on ne peut plus contrôler. On ne peut plus contrôler, c'est-à-dire que l'addiction va prendre toute notre énergie. Toute notre énergie. Frères et sœurs, il n'y a personne d'entre nous qui peut être immunisé contre l'addiction. Vous savez pourquoi? Parce que un des termes, une des définitions, l'addiction, c'est lorsque le plaisir devient souffrance. Et que nous ne pouvons pas contrôler cette recherche de plaisir. Frères et sœurs, le plaisir, nous en avons tous besoin. Nous cherchons tous à nous faire du bien. Et c'est normal et c'est naturel. Mais à quel moment le plaisir devient une souffrance? À quel moment? Un des fruits du Saint-Esprit est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. À partir du moment où nous sommes remplis de cet amour de Dieu, nous pouvons d'une certaine manière contrôler nos pulsions. Nous sommes responsables. Jésus a fait de nous, bien sûr, nous sommes ses enfants bien-aimés qu'il chérit, mais en même temps nous sommes responsables. Nous sommes adultes et nous pouvons dire non. Nous pouvons et nous devons d'ailleurs, sinon nous sommes pris dans ce piège de l'addiction. Alors malheureusement, il y a aussi l'addiction est aussi un refuge. Frères et sœurs, pourquoi on va se réfugier? On va se réfugier quand on a peur. Combien de nos jeunes sont dans la peur? Combien d'adultes sont dans la peur? Peur peut-être de l'avenir. Peur parce que nous n'avons pas confiance. Peur parce que nous avons peur de décevoir. Peur parce que nous sommes pas assez reconnus. Combien la reconnaissance est importante. On en revient toujours aux mêmes peurs. La peur de ne pas être aimé, frères et sœurs. La pire des peurs. La peur de ne pas être aimé. Alors quand on est dans une attitude comme ça, parce que je vais vous le dire, il y a des personnes qui sont malheureusement plus propices, pas si le terme est exact. En termes médicaux, on parle d'un fonctionnement en creux. Quelqu'un qui a, d'une certaine manière, un vide en lui. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle une béance. C'est-à-dire quelqu'un qui a un sentiment de ne pas être bien dans son quotidien. On appellerait ça peut-être un mal-être. Ce mal-être, souvent, est la conséquence, pour la grande majorité, peut-être d'un manque d'amour. Nous avons été créés par amour, pour l'amour. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être aimés. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'aimer. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes des êtres aimés. Jésus vous aime. Vous êtes des êtres aimants. Et vous êtes des êtres aimables aussi. Mais si on ne nous permet pas de découvrir que nous sommes intérieurement, que nous avons un cadeau, que nous avons quelque chose d'énorme, quelque chose que Dieu a déposé, quelque chose que dans lequel nous sommes garants, chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de quelque chose qui est beau en nous, quelque chose qui est bon, quelque chose qui va nous permettre de combler notre âme, de combler notre être. Encore une fois, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il est beaucoup plus facile de faire l'apologie du mal. L'apologie du mal. C'est-à-dire qu'il est plus tendance de faire du mal que de faire du bien. D'une certaine manière, le bien est devenu mal, ou le mal devenu bien, et nous sommes perdus. Il nous faut rechercher la vérité, frères et sœurs, puisque la vérité va nous permettre justement de savoir ce qui est bien pour nous ou ce qui est mal. Alors, de nombreuses personnes, et je vous dis de nombreuses personnes, sont sujets à avoir un vide intérieur. La nature, elle a horreur du vide. Ce sentiment de mal-être, peut-être nous l'avons d'une certaine manière ressenti, peut-être même avant même notre vie ici-bas. C'est-à-dire que des fois même, dès le sein de notre mère, nous pouvons ressentir un sentiment qui nous habite, où nous avons une sensibilité et nous croyons que nous sommes peut-être le fruit d'une erreur. Et, chers frères et sœurs, vous êtes dans le plan de Dieu depuis toute éternité. Dieu vous a choisi, il vous a appelé ses élus depuis la fondation du monde, pour que vous soyez saints et irréprochables dans l'amour de Dieu. Personne n'est une erreur, personne n'est le fruit du hasard. Malheureusement, encore une fois, si l'on ne nous permet pas de découvrir au fond de notre cœur ce trésor et de cultiver le bien, de cultiver le beau, de rechercher la vérité dans nos vies. Vous savez, ces peurs-là vont nous prendre et nous allons être sous les griffes du démon. Alors c'est pour ça que certaines personnes se construisent un autre univers, ont l'impression, en prenant des produits par exemple, bien sûr la drogue souvent c'est l'influence du groupe, parce que nous n'avons pas découvert notre personnalité. Qui de mieux placé que de nos parents de nous permettre de découvrir qui nous sommes? Ces êtres bons, chacun d'entre vous, vous êtes bons. Je vous le dis. Malheureusement, le péché a entaché cette bonté. Parce que ce trésor qui est au-dedans de nous, par nos formes d'addiction, vous savez, souvent l'addiction est un péché. Le péché va nous conduire, va nous couper de l'amour du Père. Le péché nous conduit, nous coupe de l'amour du Père. Et nous, malheureusement, nous fait rentrer dans les péchés contre les frères. Le mensonge, la jalousie, la critique, tout ce qui va entraîner en nous une forme d'addiction. Alors au départ, on le fait pour ressembler un petit peu au groupe. Non. Découvrez que nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Combien l'influence du groupe est importante. Combien l'influence des copains, de vos enfants, est importante. Certains d'entre vous, vous êtes parents. Certains d'entre vous, vous êtes grands-parents. Il est important que nos enfants soient bien entourés, parce que souvent, une addiction va commencer aussi comme ça. On va faire comme les autres. On va avoir l'impression d'être quelqu'un quand on fume un joint. Et puis aujourd'hui, on le voit, en tous les cas moi je le rencontre, de plus en plus de jeunes vous disent « mais non, c'est rien ». Frères et sœurs, il y a déjà pas mal de temps, quand je fumais du shit ou de l'herbe, vous savez comment on appelait ça? On appelait ça de la drogue douce. Déjà le terme, il était faussé. Parce qu'on essaye de nous fausser. On essaye de nous mentir et je vous demande pardon. Devant l'Éternel, il n'y a pas de drogue douce. Ça n'existe pas, la drogue douce. Il y a certaines plantes, peut-être, qui peuvent soulager d'une certaine manière. Les anciens ont soigné à la plante, il y a quelques plantes qui peuvent nous faire du bien. Mais la drogue, le cannabis, ce n'est pas une drogue douce. Mais à l'époque, on appelait ça de la drogue douce tout simplement parce que le pourcentage de THC, le THC, c'est le pourcentage de drogue qu'on a dans l'herbe ou le shit, était très bas à mon époque, quand j'allais me fournir, même ici dans les quartiers, on était entre du 4% jusqu'à du 10% si le pourcentage de drogue était. La quantité de drogue qu'il y avait dedans était forte. Frères et sœurs, si vous avez des jeunes qui fument aujourd'hui, c'est un pourcentage de THC entre 20, 30 et 40%. Nous sommes plus du tout dans une drogue douce. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui fume un joint aujourd'hui, c'est l'équivalent, à mon époque, de 20 joints. Et faut pas être étonné si, malheureusement, de plus en plus de jeunes commencent à basculer dans des espèces de crises de démence, dans des espèces de crises d'hallucination ou des espèces de crises de délire. Parce que ce genre de produit va conduire, malheureusement, à des délires. Et les jeunes vont vous dire quoi ? Je gère. Ils gèrent rien, frères et sœurs. On ne peut pas gérer dans cette situation. On est déjà pris au piège. Vous savez, il y a une différence, je le dis. On est entre amis. Dieu nous a pas interdit de boire un petit peu d'alcool. Le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme. Mais la différence, c'est quand tu vas boire un verre ou entre amis, ou tu vas être dans une manière conviviale. Tu es bien, tu as envie d'offrir un de tes petits vins à tes amis et de passer un bon temps avec tes amis. La différence, c'est quand tu rentres à la maison et que tu es pas bien, pour X raison, et tu ouvres le placard et tu commences à boire. Tu es déjà dans une forme d'addiction. Tu prends le produit pour te détendre, mais c'est pas vrai. Tu es piégé déjà. À la différence du tabac, je vous le dis, frères et sœurs, le tabac est une véritable drogue. Un fumeur sur deux meurt à cause du tabac. Mais en même temps, quand on fume une cigarette, on peut conduire un véhicule tout à fait normalement. On peut enseigner, on peut travailler tout à fait normalement. À la différence du cannabis, je reviens sur le cannabis. Le cannabis, ce qui est terrible, c'est quand on prend même une prise, on est en contradiction totale avec notre propre réalité. C'est ça qui est grave. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Et malheureusement, c'est ce qu'on recherche. On recherche d'être quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on n'est pas bien tel que nous sommes, alors que Dieu t'a fait tel que tu es. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer avec ce que tu es. Apprends à vaincre tes peurs. La peur n'est pas un fruit du Saint-Esprit, bien sûr que non. Découvre au fond de ton cœur ce trésor, encore une fois. Ça, c'est le plus important, frères et sœurs. Je le dis aussi. À la différence de l'alcool, encore je reviens dans l'alcool, qui est une drogue aussi terrible, qui tue quand on est prisonnier dedans. Et on sait très bien combien l'alcoolisme est une souffrance. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire. Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir faire des retraites pour vaincre l'addiction. Trouverez quelques CD par rapport à ça. Je sais très bien que le Seigneur peut guérir tout de suite, immédiatement, c'est assez rare. Mais il peut déclencher quelque chose. Il peut déclencher un sentiment qui peut y arriver. Et c'est ça qui va nous encourager, frères et sœurs. Alors pour revenir à l'alcool, Souvent, les jeunes, ils ne savent pas boire aujourd'hui. Ils prennent de la drogue comme de l'alcool, hein, d'une manière très, très, très excessive. Très, très, très excessive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La pire des choses, ça peut être un coma éthylique. Et c'est terrible. Mais souvent, malheureusement, dans leur soirée, ils sont complètement malades, hein, parce que le corps va réagir d'une manière violente. Nous allons être malades quand nous buvons à l'excès. Frères et sœurs, à la différence de l'alcool, quand on prend de la drogue, c'est pas le corps qui va réagir, c'est la tête. On appelle ça une infection cérébrale. Une infection cérébrale. Maintenant, je vais vous dire, par rapport à d'autres drogues, par rapport à d'autres formes d'addiction, quand nous rentrons dans ce qu'on appelle un jeu de rôle, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression de se construire dans un univers totalement déconnecté de la réalité. Et après, on s'étonne que certains jeunes ont retourné je ne sais pas combien de tombes. Je vous le dis, frères et sœurs, qui avez des enfants, faites attention à ce qu'ils regardent. Leurs images. Combien de familles j'ai retrouvées complètement détruites depuis les nouvelles télévisions satellites, depuis Internet à la maison. Ça peut toucher n'importe qui. Mais encore une fois, le fond du problème, c'est de croire que nous sommes des êtres qui ne sont pas aimés. Et c'est ça le plus important. Il faut découvrir cet amour de Dieu en nous. Et nous pouvoir nous permettre de construire cet amour, c'est-à-dire permettre à nos jeunes de découvrir leurs dons et leurs talents, s'ils peuvent le mettre au profit des autres. Eh ben, amen, ils seront sauvés, nos jeunes. Parce que, à force de regarder des images qui sont ultra-violentes, d'ailleurs, ils sont souvent déconseillés aux mineurs. Il y a des jeux, mais c'est terrible, mon Dieu. On ouvre les portes largement à Satan. Bien sûr, ça veut pas dire, c'est un jeu, ça reste un jeu. Ça veut pas dire que on va prendre une Kalachnikov et on va dégommer tout le monde. Mais certains jeunes, ce sont des jeux sans fin. Ce sont des jeux sans fin. Et la seule chose qui va nous, pour nous détendre, la seule chose qui va nous faire du bien, c'est de retourner dans ces jeux. Et nous sommes tous appelés à ça. Malheureusement, appelés, nous sommes tous concernés, c'est ça que je veux dire. Frères et sœurs, vous savez très bien, et je sais que dans certains milieux, ça se fait beaucoup, combien tu vas perdre à un moment où tu vas être prisonnier dans ton jeu, même si tu crois gagner un petit peu d'argent, quand tu commences à jouer à l'argent, justement. Et on est sollicité, et on est conditionné. Combien de pères de famille? Et pas que les pères de famille, mais combien de pères de famille passent leur temps à jouer, à perdre de l'argent, à payer des dettes. Et c'est une pratique excessive qui les rend malheureux. Malheureux pourquoi? Parce que nous sommes dans l'excès de mensonges tout le temps et nous sommes dans une forme de déni. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de plaisir, une forme d'adrénaline, une forme d'excitation. Frères et sœurs, découvrez encore une fois, au fond de votre cœur, Dieu nous a rendus libres. Il nous a affranchis pour la liberté, une bonne fois pour toutes, pour que nous soyons libres. Quand tu es pris dans ce piège, et c'est vrai, je sais combien ça peut être difficile, mais Dieu nous permet de nous le délivrer. Vous savez, je ne sais pas si on peut parler de plaisir. Combien de bras de jeunes j'ai rencontrés. Par pudeur, les jeunes filles ne me montraient pas le haut de leurs cuisses. On appelle ça de la scarification, de l'automutilation. Mais vous savez, quand on est dans une drogue, peu importe la drogue, quand on est dans une addiction, c'est de l'autodestruction. Le symptôme profond d'un mal-être qui va s'exprimer extérieurement par un mal que nous allons nous faire. Alors on va prendre un compas, on va prendre un cutter et on va commencer à s'entailler. Mon Dieu, mais c'est terrible. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et nous, nous abîmons notre corps. Mon Dieu. Généralement, ça ouvre les portes aussi, vous savez, quand on n'est pas bien, le vide, la nature a horreur du vide. Hein. On va essayer de gloutiner, hein, on va essayer de compenser, peut-être jusqu'à se faire vomir, frères et sœurs. Et on est encore dans un déni profond. Vous savez, je me moque de personne. J'ai passé 15 ans dans les ruines, enfermé dans cette drogue, à ne penser qu'à ça, à être obsédé qu'à ça. Quelqu'un qui est dans l'anorexie, quand elle se regarde, souvent c'est une jeune fille, quand elle se regarde, elle est plutôt mince. Vous savez ce qu'elle voit d'elle-même? Elle se voit énorme. Et souvent, quand on est pris dans ces pièges de forme d'addiction, hein, on a toujours tendance à essayer, parce que c'est ça, frères et sœurs, on prend conscience, on réalise, et on essaye. Mais on peut pas. On peut pas. Alors on a besoin d'aide. On a besoin de se porter les uns les autres. On a besoin de s'encourager. Ce que je dis dans mes retraites. Si vous avez quelqu'un dans ce cas, ou si vous-même vous êtes dans ce cas, trouvez un parrain, une marraine de galère. Dites-lui en vérité vos addictions, non pas pour vous juger, parce que nous ne sommes pas là pour nous juger, mais nous sommes là pour nous aider, nous sommes là pour nous aimer, comme Dieu nous aime, comme Christ nous a aimés. Trouvez un frère, une sœur, hein, de confiance, auquel vous pouvez dire, voilà ma pauvreté. J'essaye, je me bats, je lutte contre. Et même quand vous cassez la figure, allez l'appeler, dites-lui, j'en peux plus. Ça, c'est une des solutions. Bien sûr, il faut être aidé. Il va falloir du temps, frères et sœurs. Il va falloir beaucoup de prières aussi. La prière, encore une fois, nous donne la paix du Seigneur. C'est un chemin très très long dans lequel nous sommes entrés. Maintenant, il n'y a rien. Même le démon ne pourra pas attaquer notre volonté. Le démon ne peut pas toucher à notre volonté. Le problème, c'est que quand nous sommes pris au piège d'une forme d'addiction, nous avons, d'une certaine manière, entraîné une paresse en nous. Oh, quand je dis une paresse, vous savez, j'étais prêt à faire 3 fois le tour de Paris pour trouver une dose en manque. Quelqu'un qui est prisonnier dans l'addiction du sexe, il va passer toute la nuit à chercher une prostituée jusqu'au moment où il va se soulager. Mais quand il faudra arrêter, ça va lui demander de l'effort. Et cet effort-là, Dieu sait si ça va être difficile. Alors il va falloir prendre le temps, il va falloir prendre cette volonté qui est au-dedans de nous et se donner les moyens. Faites un tableau. Mettez un côté les avantages, un côté les inconvénients. Je vous le dis, frères et sœurs, avec tout l'amour que Jésus a mis dans mon cœur, si vous ne prenez pas conscience maintenant dans le piège dans lequel vous êtes tombé, vous allez tout perdre. Croyez-moi, tout perdre. Jusqu'à la santé, peut-être. Tout à l'heure, Ernest disait, peut-être que je dirais 2-3 mots. J'ai été hospitalisé, il y a maintenant plus de 20 ans, à l'hôpital Bichat. Pour 2 maladies dites incurables. Le sida est une maladie du foie. On me donnait 3 à 6 mois à vivre. Frères et sœurs, ça fait 20 ans de ça. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Mais oui, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il a fallu du temps, il a fallu la grâce de Dieu, il a fallu que le sang précieux coule sur moi, il m'a fallu des frères et sœurs en Christ qui m'encouragent. Et chaque jour, je remets ma vie au Seigneur, chaque jour, parce que je vais vous dire une chose, je suis complètement libéré de la drogue, ça, il n'y a aucun problème. Mais le démon est comme un lion rugissant, il attend sa proie, et dès que tu vas chuter, il va te ramasser. Mais à chaque fois que tu vas chuter, crie vers Dieu. Crie vers Dieu ta pauvreté, demande-lui qu'il vienne simplement t'aider. Et demande à des frères et sœurs de pouvoir être comme ton soutien, comme ton appui. Nous allons briser avec la puissance du Saint-Esprit le joug dans lequel tu es enfermé. Nous allons demander cette grâce. Cette grâce va être accordée, mais je vous le dis parce que je ne veux pas vous la faire à l'envers. Le démon est malin. Le démon est malin. Et il faudra le temps, frères et sœurs, pour pouvoir être complètement guéri. Mais il n'y a rien de plus beau et je vous encourage. Parce qu'à partir du moment où tu as découvert combien il était beaucoup, combien il était, voilà, meilleur, meilleur, c'est même pas un mot, de vivre totalement libre. Frères et sœurs, nous avons une possibilité d'augmenter notre bonheur. Cette possibilité, c'est de découvrir au fond de notre cœur qu'il y a quelque chose de grand, qu'il y a quelque chose de beau qui a été déposé. Puissions-nous découvrir, et le plus vite possible, ce que Dieu a déposé dedans de nous. Et permettons à Dieu de pouvoir, comment dire, nous permettre justement de plus en plus chercher au fond de notre cœur ce bonheur. Frères et sœurs, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais vous le savez très bien, nous allons à la rencontre d'épreuves. D'épreuves qu'on n'aura pas choisies. Mais si tu as un regard d'espérance sur cette épreuve, vous allez en sortir grandi. Vous allez en sortir meilleur. C'est ça la foi. La foi, c'est se projeter dans un avenir où Dieu a mis sa faveur. Rentrer dans un plan dans lequel Dieu déjà a préparé les choses pour vous. Et pour ceux qui sont prisonniers dans cette addiction, déposez les armes, même avec, je sais combien c'est difficile, mais dites-le tout simplement, je veux, je suis déterminé aujourd'hui. Je le veux, Seigneur, viens à mon aide et projette-toi dans ce plan qu'il a pour toi. Et je vous le dis, à partir du moment où vous allez commencer à sortir de cette épreuve, peu importe l'épreuve, eh ben, vous allez pouvoir aider les autres. Aider les autres. Aimer les autres. Ça fait 20 ans, frères et sœurs. Bien sûr que je ne suis pas parfait. Tout à l'heure, notre frère Ernest nous l'a dit. Ben oui, on ne va pas se complaire dans le péché. Mais oui, comme saint Paul nous le dit, le bien que je voudrais faire, eh ben je ne peux pas. Ben oui. Et puis le mal que je ne veux pas faire, eh ben oui, je le fais. Parce que je suis un être pécheur. Mais en même temps, mon désir au fond de mon cœur, il est là. Mon désir de sainteté, il est là. Je le veux. Je sais que Jésus a fait des grandes choses pour moi. Je sais que Jésus peut tout faire pour moi. Et il va m'aider dans mon quotidien. Et en même temps, au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui m'habite. Ce qui m'habite, c'est cet amour de Jésus. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pour ça qu'il est bon de dire « Oui, Seigneur, avec mes pauvretés, avec mes faiblesses, avec mes limites, mais je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et j'ai envie, Seigneur, j'ai envie d'oser quelque chose, d'oser être heureux pour moi, pour ma famille. » C'est pas égoïste, bien au contraire, parce qu'à partir du moment où vous serez heureux, vous partagerez ce bonheur que Jésus a déposé dans votre cœur. Frères et sœurs, osez décider maintenant avec une détermination. Je le veux ce bonheur parce que tu l'as déposé au fond de mon cœur. Je sais qu'il y a des épreuves, je sais qu'il y a des difficultés. Je sais qu'il m'arrive de marcher dans les vallées de l'ombre et de la mort. Mais je veux pas m'y installer, je veux pas déposer un transat et passer des années. Non. Alors à chaque fois que je chute, je reviens à la croix. Et à chaque fois que je rechute, je reviens à la croix jusqu'au jour où on va être totalement libéré. Ce jour-là, il peut être proche, frères et sœurs. Il peut être proche pour vous. Il peut être proche pour vos familles. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Vous savez, tu l'as abordé un petit peu, Ernest. Hier, j'étais en voiture, il m'arrive de prier, il m'arrive d'écouter aussi des fois les informations. Et là, c'était terrible, parce qu'on annonçait qu'en France, on est un des pays où il y a le plus de taux de suicide. Cet esprit de mort a pris, d'une certaine manière, la possession de notre pays. C'est-à-dire que nous sommes installés dans une culture de mort. Mais c'est terrible, alors que nous avons Dieu avec nous. Vous savez comment on appelait la France à l'époque ? La fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a un héritage sur nous. Tu me dis, Ernest, il y a un héritage, il y a quelque chose, il y a quelque chose sur cette nation. Le Saint Jean-Paul II disait qu'une société dans laquelle nous retirons Dieu, c'est la culture de mort qui va s'installer. Une culture de mort. Et après, on voit des enfants, je vois des jeunes, j'ai des mails en pagaille, qui me disent entre quatre yeux, mais j'aime pas ma vie. J'aime pas ma vie. Et je peux comprendre. Parce que quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'aimais pas ma vie. J'aimais pas ma vie. Parce qu'on m'a pas permis de la découvrir. Parce qu'on m'a pas permis d'être un passionné de la vie. Tout simplement en nous encourageant. Et c'est ça le plus important, encore une fois. Alors j'étais influencé, comme la plupart des personnes, c'est ce que je vous disais par rapport aux formes d'addiction. On va faire comme les autres. On va essayer d'appartenir à un groupe. Et on va être pris dans un piège. Vous savez, l'influence des personnes peut être aussi une addiction. C'est pour ça que malheureusement, là aussi c'est une forme d'addiction dans laquelle on a du mal à comprendre. Mais pourquoi d'après vous, il y a des jeunes qui ont le cerveau complètement retourné ? Oh, ils ont ouvert des portes malheureusement à des esprits de mal et ils sont complètement perdus. Et là aussi on va faire une apologie du mal jusqu'à peut-être croire à être un héros en allant faire du n'importe quoi. L'addiction est un danger de mort, frères et sœurs. Et je voudrais, c'est pour ça que le Seigneur a mis dans mon corps, dans mon cœur, de pouvoir faire des journées où on puisse vraiment accueillir des personnes prises dans ce piège, prises dans la pornographie, dans la pornodépendance. Vous savez, quand j'ai entendu encore une fois, décidément, les nouvelles ces temps-ci sont pas terribles, mais la meilleure nouvelle, c'est celle-là, c'est la nouvelle de l'Évangile. Celle-là, elle change pas, elle change pas. Oui, tu peux applaudir. Certains d'entre nous, et encore une fois, je ne fais pas de jugement, attendent que l'horoscope leur donne quelque chose de... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Lui, la parole de Dieu, t'as pas besoin d'horoscope, hein ? T'as pas le droit, t'as pas besoin, comme le frère Ernest nous disait, d'aller voir quelqu'un pour qu'on te raconte tes rêves. Non, le Seigneur a tout déjà écrit. Il a déjà même tout écrit pour toi. Pour toi. Il y a une véritable lettre d'amour là-dedans. Alors, ces informations disaient que un homme respectable, directeur d'une école, il avait fait des cures de désintoxication contre la pédopornographie. Frères et sœurs, je vous le dis sans me moquer, que le Seigneur vous révèle que si certains sont pris dans ce piège, vous le savez déjà, mais vraiment, demandons cet après-midi, demandons une grâce particulière. S'il l'a fait pour un gars comme moi, croyez-moi, il peut le faire pour n'importe qui ici-bas. Il peut le faire pour n'importe qui. Et encore une fois, vraiment, je veux vous faire rentrer dans une espérance, parce que Dieu nous l'a montré. Il n'y a rien. Vous savez, notre destinée, c'est pas d'être enchaîné. Notre destinée, c'est de découvrir encore une fois cet amour que Dieu a pour nous et qu'il a déposé au-dedans de nous. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prier et nous demanderons vraiment des grâces pour que chacun d'entre nous, nous puissions sortir complètement libres. Amen. Soyez bénis. Amen.